France Inter.
Bonsoir Éric Delvaux.
Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Les 87 salariés de l'usine Systovi près de Nantes n'ont plus aucun espoir. Leur usine de panneaux solaires est aujourd'hui en cessation d'activité. Nous en profiterons pour ouvrir ce dossier ce soir sur la concurrence chinoise et nous entendrons Bruno Le Maire et nous verrons qu'aux États-Unis également les Chinois causent du tort au marché américain. Joe Biden a dit aujourd'hui vouloir tripler les droits de douane sur l'acier chinois. Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, pas peu fiers ce matin en présentant leur bilan des 9 premières opérations PlaceNet version XXL, des chiffres que Sarah Guibaudeau a regardé à la loupe. Jean-Luc Mélenchon maintient sa conférence demain à Lille sur l'actualité de la Palestine, mais ce ne sera plus au sein de l'Université de Lille qui a préféré annuler le rendez-vous. La sérénité des débats n'était plus garantie, affirme l'université. Nous verrons pourquoi. Et puis question dans ce journal sur les thérapies de conversion. Vous savez, ces pratiques interdites en France qui ont pour objectif de modifier l'orientation sexuelle ou l'identité sexuelle d'une personne, eh bien, plusieurs associations LGBT+ accusent les sénateurs, les républicains, de vouloir les remettre au goût du jour. Dans ce journal encore, témoignage d'Iraniens qui s'inquiètent des nouvelles sanctions, surtout économiques, que préparent les États-Unis et l'Europe. Enfin, si vous avez aimé la série Baron Noir, puis la série La Fièvre, eh bien une surprise attend les amateurs avec un projet de fusion des deux œuvres. Explication dans un instant. Et puis après ce journal, vos questions, les auditeurs. Sur l'eau, on vient d'en parler. L'eau en bouteille, l'eau en robinet, un téléphone sonne à consommer sans modération.
France Inter.
À Carquefou, dans le pays nantais, voilà une cessation d'activité à mettre sous la bannière du dumping chinois.
Oui, le fabricant de panneaux solaires Systovi n'a pas pu résister à la concurrence massive et à bas prix des panneaux chinois. Le patron n'a pas trouvé repreneur pour sauver ses 87 salariés. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
Alors le comble dans cette histoire, c'est que la France a lancé au début du mois un plan de bataille justement pour soutenir les panneaux solaires européens, mais un plan sans effet donc sur l'offensive de Pékin.
Depuis l'été dernier, les fabricants chinois bradent leurs panneaux photovoltaïques, prix divisé par deux, quitte à vendre à perte. Chez Systovi, l'impact a été direct sur le carnet de commandes, explique le directeur Paul Toulouse avec Lauriane Delanoé.
Notre carnet de commandes aujourd'hui est 5 fois inférieur à ce qu'on avait l'année dernière à la même époque. Face à une concurrence des industriels chinois et face à une évolution de la réglementation qui n'est pas propice au développement d'une filière industrielle en France et en Europe, on n'est pas un cas isolé, l'ensemble de la filière souffre.
Faute de repreneurs, l'activité va donc s'arrêter dans les prochains jours, le temps d'honorer les dernières commandes, d'accompagner les 87 salariés sur le carreau. Coïncidence, le gouvernement vient tout juste de relancer le pacte solaire qui semblait enterré l'hiver dernier. Objectif, produire 40% de panneaux photovoltaïques dans l'Hexagone d'ici 2030.
C'est un texte qui est très symbolique, qui contient des mesures qui ne sont ni contraignantes ni précises et qui d'ailleurs n'a pas été signé ni par les industriels existants, ni par les gros donneurs d'ordre, ceux qui posent le plus de panneaux solaires. On est probablement sur un acte de communication de la part du gouvernement, malheureusement.
Face aux Chinois, dont la capacité de produire est 50 000 fois plus élevée, il faut voir grand, estime le président de Carbone, la gigafactory du solaire, censée voir le jour d'ici 2027. Ils viennent déposer une demande de permis de construire à Fos-sur-Mer.
Oui, et en ce moment, il n'y a pas que la France et l'Europe qui subissent de plein fouet la concurrence chinoise et ses méthodes. Aujourd'hui, à Washington, Joe Biden a dénoncé une compétition injuste autour de l'acier chinois qui pénalise, a-t-il dit, les travailleurs américains. Joe Biden juge les pratiques chinoise déloyale. Il veut donc tripler les droits de douane imposés sur l'acier et l'aluminium chinois importés aux États-Unis. Un acte de guerre commerciale que ne valide pas le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire.
Nous devons éviter toute guerre commerciale qui aurait un impact sur la croissance européenne et sur la croissance mondiale. En revanche, je veux redire avec beaucoup de force que le commerce international doit être bâti sur un principe d'équité et de réciprocité. L'Union européenne en particulier doit apprendre à mieux défendre ses intérêts économiques et à mieux défendre ses intérêts commerciaux. Quand vous produisez en Europe, vous produisez à un coût qui est supérieur à celui des autres continents parce que nous avons les normes environnementales parmi les plus strictes au monde. Quand vous produisez de l'acier ou de l'aluminium en Europe, par exemple à l'aluminium Dunkerque ou à Fos. Vous passez à des productions électriques qui sont plus coûteuses, qui représentent des milliards d'euros d'investissement, mais qui nous permettent d'avoir l'acier et l'aluminium le plus décarboné de la planète. Il faut protéger ces industries et nous donner les moyens d'un rééquilibrage commercial.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire à Washington aujourd'hui avec Sébastien Pahour, puisque le ministre français de l'économie participe aux réunions du FMI et de la Banque mondiale. Joe Biden a rétorqué d'ailleurs il y a quelques minutes qu'il ne voulait pas de guerre commerciale avec la Chine, malgré cette annonce donc de vouloir tripler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium chinois. En France, c'est une litanie de chiffres qu'ont égrené à la mi-journée les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour vanter les mérites des opérations antidrogue labellisées Place Net version XXL, lancées en grande pompe à Marseille à la mi-mars. Il y a eu depuis 3814 interpellations, 600 présentations à un juge, 186 mandats de dépôt. Gérald Darmanin, je vous le disais, avec Éric Dupond-Moretti, n'était pas peu fier ce matin de leur bilan. Bonsoir Sarah Guibaudot.
Bonsoir.
Des chiffres que vous avez regardés d'un peu plus près.
Gérald Darmanin annonce ainsi la saisie de quelques 500 armes, de 4 tonnes de drogue et de près de 20 millions d'euros en argent liquide ou en biens immobiliers. Les ministres ont trouvé de quoi étoffer le bilan de ces opérations antidrogue qui sont gourmandes en effectifs. Près de 70 000 policiers et gendarmes mobilisés depuis le mois de mars et dont le résultat pouvait jusque-là paraître maigre. Près de 500 kilos de drogue saisis à Marseille, une centaine à Lille, mais seulement une cinquantaine à Clermont-Ferrand, une trentaine à Toulouse, 15 kilos à Lyon ou 8 kilos à Dijon, vous le voyez. Jusque-là, en additionnant les bilans donnés ces derniers jours par différentes préfectures concernées par les opérations XXL, on n'atteignait pas les 4 tonnes. Et des critiques commençaient à se faire entendre chez certains policiers et magistrats qui estiment manquer d'enquêteurs pour démanteler les réseaux ou saisir les biens des têtes de réseau souvent à l'abri à l'étranger. Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a aussi mis en avant les opérations Cellule Net en prison pour saisir des téléphones portables. Tous deux se félicitent d'avoir démantelé des points de deal à la grande satisfaction des riverains, nous l'avons constaté sur le terrain, mais à condition de pouvoir tenir sur la durée.
Opération Place Net en Guadeloupe également, puisque le ministre de l'Intérieur décolle ce soir, cap sur Pointe-à-Pitre, pour lancer la prochaine séquence. Dossier suivi par Sarah Guibaudot. Un mineur est en garde à vue après le décès d'un homme de 22 ans, un employé d'un centre socio-éducatif, victime d'une violente, très violente agression. Les faits se sont déroulés à Grande-Synthe, dans le Nord, Alice Marot.
Il est en ce moment interrogé par les enquêteurs de la police judiciaire qui continuent aussi à chercher les autres agresseurs car selon les premiers éléments, ils étaient au moins 3 à s'en prendre au jeune homme lundi soir en plein centre-ville sur le parking du Carrefour juste à côté de la mairie. Aujourd'hui, des habitants sont venus déposer des roses blanches sur les grilles de ce parking et dans les rues de Grande-Synthe, on se dit sous le choc face à la violence de l'agression. Des images tournent sur les réseaux sociaux, beaucoup de rumeurs aussi. Alors le maire de la commune, Martial Bayard, appelle les habitants à garder leur sang-froid, à ne pas céder au dérapage ou à l'esprit de vengeance. Une cagnotte a été lancée pour les funérailles du jeune homme. Elle dépasse déjà les 14 000 euros.
Et question ce soir sur l'autorité, autorité parentale, à l'école ou dans la rue, face à une partie de cette jeunesse en déshérence. Gabriel Attal se rendra demain à Viry-Châtillon, près de Paris, pour détailler son plan d'action sur l'autorité, justement. Viry-Châtillon, c'est dans cette commune de l'Essonne qu'un adolescent de 15 ans est mort jeudi dernier après avoir été battu. 3 mineurs ont été placés en détention provisoire. Le thème de l'autorité, donc choisi par Gabriel Attal demain pour marquer ses 100 jours passés à Matignon.
Jean-Luc Mélenchon maintient sa conférence demain à Lille sur l'actualité de la Palestine.
Oui, mais ce ne sera plus au sein de l'université de Lille qui a préféré annuler le rendez-vous. On vous en a parlé en longueur dans le journal de 18h. L'université estime que la sérénité des débats n'était plus garantie pour cette conférence avec le leader insoumis et la militante franco-palestinienne controversée Rima Hassan. Des élus locaux, LR, RN, Renaissance avaient réclamé cette annulation au motif que le logo de l'association organisatrice en bas de l'affiche est interprété comme une disparition d'Israël. Réaction d'une militante LFI. Elle s'appelle Lina, étudiante à la Sorbonne à Paris. Elle est choquée par cette annulation de conférence.
J'ai été étonnée parce que moi je viens de la région parisienne et c'est toujours dans les facs quoi. Donc la fac c'est quelque chose de politisé. Enfin, j'ai été à la fac de Nanterre avec Louis Boyard et Jean-Luc Mélenchon. Voilà, nous on est des jeunes, on veut se politiser. on se politise et on a besoin de personnes qui viennent sous nos lieux, et même si c'est d'autres partis politiques, pourquoi pas, mais en attendant, c'est affligeant, quoi.
Lina, militante LFI, qui participera dans quelques minutes à un meeting de Jean-Luc Mélenchon à Roubaix, propos recueillis par Laurence Perron. Si ce n'est pas le retour des thérapies de conversion, eh bien ça y ressemble. C'est ce que disent les associations LGBT+, qui accusent les sénateurs, les Républicains, de vouloir réintroduire ces pratiques illégales depuis 2 ans en France, des pratiques qui ont pour objectif de modifier l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle d'une personne, et c'est une accusation que réfute la droite. Les sénateurs de droite. Bonsoir François Ventéjou.
Bonsoir.
Ce qui est en cause, c'est l'article 3 d'une proposition de loi au Sénat qui veut encadrer les pratiques médicales dans la prise en charge des mineurs qui se questionnent justement sur leur genre.
Un article dans lequel il est prévu une stratégie nationale pour la pédopsychiatrie avec plus de moyens pour permettre aux mineurs trans, je cite, de retrouver un état de bien-être psychique. Stratégie qui envisage aussi de garantir à chaque enfant en souffrance psychique d'être soigné. Parler de soins, c'est inacceptable pour Anaïs Perrin-Prével, directrice de l'association Outrance.
C'est problématique en matière scientifique et médicale en particulier, parce qu'aujourd'hui la médecine reconnaît que la transidentité n'est pas une pathologie mentale. Or, la vision des sénatrices LR, c'est de considérer que la transidentité, c'est un problème psychiatrique, en tout cas pris en compte comme étant une pathologie psychiatrique, et donc une prise en charge, une thérapie psychiatrique qui permettrait aux personnes de revenir dans le droit chemin et de revenir sur leur genre d'assignation. Ça s'appelle purement et simplement une thérapie de conversion et c'est interdit par la loi française.
Le parallèle avec les thérapie de conversion, c'est n'importe quoi, réagit de son côté la sénatrice LR Jacqueline Stache-Brignaud à l'initiative de la proposition de loi. Elle dit vouloir accompagner en prenant le temps les enfants qui se posent des questions, rien de plus. Une pétition lancée par le coin des LGBT+, pour dénoncer la proposition, recueille ce soir plus de 40 000 signatures. La communauté peut compter sur le soutien du gouvernement. Il a fait savoir qu'il s'opposera avec force lors des discussions au Sénat prévues le 28 mai.
François Ventéjou. Toujours plus de voies réservées en France pour le covoiturage, pour les véhicules propres, pour les taxis, pour les bus. Les expérimentations vont être étendues. Le décret a été publié aujourd'hui au Journal officiel. Depuis 3 ans, les voies en question sont identifiées par un logo en forme de losange sur la file de gauche. Ça pourrait être maintenant sur la voie de droite. Et tous ceux qui utilisent cette voie sans autorisation sont passibles de 135 euros d'amende. À Cordemain, c'est en Loire-Atlantique. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées aujourd'hui devant la centrale à charbon à l'appel de la CGT. Ils veulent que cette centrale se convertisse à la biomasse. Or, la CGT et les salariés craignent qu'EDF n'alourdisse volontairement le coût de ce projet pour le rendre caduque.
France Inter, Éric Delvaux.
Notre devoir est d'élargir les sanctions contre l'Iran. Ce sont les propos, il y a quelques minutes, du président Macron. Il emboîte le pas aux États-Unis, puisque Washington vient de décider de nouvelles sanctions contre Téhéran. L'Union européenne également veut durcir les sanctions déjà existantes. Aujourd'hui, à Téhéran, le régime a procédé à une démonstration de force militaire. C'était la journée nationale de l'armée. Et pendant que les dirigeants iraniens bombent le torse, la population s'inquiète de ces prochaines sanctions occidentales. Comme en témoignent ces Iraniens que Noé Pignède a pu contacter, leur nom et leur voix ont été volontairement modifiés pour les protéger.
Les sanctions occidentales, les Iraniens les subissent déjà depuis des années. L'économie du pays est à terre, Ferial tient un salon de coiffure à Téhéran.
La première conséquence des sanctions, c'est qu'on n'a plus rien à mettre sur la table à manger. Tout est déjà très cher et on souffre des pénuries. Notre pays est au bord de la faillite. S'ils nous rajoutent encore des sanctions, sérieusement, on est mort.
Selon Niloufar, la trentaine, les sanctions ne rendent pas seulement la vie des Iraniens impossible, elles enrichissent aussi directement le régime qui contrôle le marché noir.
L'embargo qui est imposé à l'Iran vise principalement les civils, pas les dirigeants, les militaires ou les gardiens de la révolution qui font leur business et de la contrebande. Ils profitent, mais ça leur fait de l'argent. Ils deviennent de plus en plus riches et les gens ont les poches de plus en plus vides.
Navid, lui, réclame des sanctions, mais exclusivement contre les dirigeants.
Il faut cibler plus précisément nos responsables et leurs proches. Nous savons que les chefs des gardiens de la révolution ont des enfants qui vivent dans des pays européens. Alors, si vous voulez vraiment nous aider, foutez-les dehors.
So, if you really want to help us, throw them away.
Et cet opposant au régime ajoute que lui n'a jamais réussi à obtenir de visa pour venir étudier en Europe.
Faire cesser les hostilités dans la bande de Gaza en échange de libération d'otages détenus par le Hamas, de l'aveu même du Premier ministre qatari. Les négociations piétinent. Le Qatar est l'un des médiateurs entre Israël et le Hamas palestinien. Benjamin Netanyahou récuse toute allégation de famine dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien affirme qu'Israël fait même tout son possible sur la question humanitaire. L'Ukraine ne sait plus comment le dire à ses alliés. Elle a besoin d'un soutien militaire accru. Depuis une semaine, la Russie mène une campagne massive de frappes sur les infrastructures ukrainiennes. Aujourd'hui encore, dans la ville de Tcherniv, grande ville au nord de l'Ukraine, une triple frappe de missiles russes a fait au moins 13 morts, une soixantaine de blessés, une université, un centre hospitalier ont été touchés. À Tcherniv donc, correspondance de l'envoyé spécial de France Inter, Isabelle Labéry.
Elle se tient bien droite et reste très calme. Mais la directrice de l'hôpital, Ina Fezenko, était dehors quand le premier missile est tombé à quelques centaines de mètres.
On a levé les yeux et on a tout de suite vu qu'il était en train de tomber. À la première explosion, on est tous tombés. Et même pas une ou deux secondes après, il y a eu la deuxième explosion.
L'hôtel voisin qui était visé n'est plus qu'une carcasse de béton qui tient à peine debout.
Quand je suis arrivé, il y avait des débris de verre, du sang partout. Sur le parking, j'ai vu un homme qui avait littéralement explosé dans sa voiture à cause de l'impact.
Alexander est secouriste.
On va se battre jusqu'à ce que le dernier russe présent sur notre terre soit mort.
Des médias russes assurent qu'un haut responsable militaire ukrainien était présent dans l'hôtel. Mais pour le gouverneur de la région, ce sont d'abord les civils qui sont visés.
Nous avons besoin des systèmes de défense antiaérienne de nos partenaires. Si on en avait assez, on pourrait empêcher ces actes terroristes que la Russie conduit chaque jour contre notre pays.
Une journée de deuil a été décrétée par la mairie de Tchernobyl.
Et dans le reste de l'actualité internationale, en bref, retenez que 7 mois après la reconquête du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan, les militaires russes présents dans cette enclave depuis un peu plus de 4 ans ont commencé aujourd'hui à se retirer. Et puis en Grèce, le coût de la vie est décidément trop cher. Une partie de la population est même descendue dans la rue aujourd'hui pour manifester contre les prix exorbitants, les salaires trop bas selon les slogans lus sur les banderoles.
C'est un projet qui excite, si j'ose dire, les sérivores.
Oui, 2 séries télé qui vont fusionner. 2 séries écrites par le même scénariste. La Fièvre, dont la diffusion s'est achevée lundi sur Canal+. Et puis le Baron Noir diffusé depuis 2016 sur Canal. 2 œuvres très politiques qui vont s'entremêler dans une suite. Une suite commune. Les personnages de l'une rencontreront les héros de l'autre. Et le journaliste Benoît Lagane, grand spécialiste des séries télé, est emballé par ce projet de scénario.
C'est une excellente idée. Ça démontre de la part d'Éric Benzekri, le créateur de la série, qu'il sait ce qu'il fait et que donc c'est plaisant de pouvoir raccrocher tous ces univers un petit peu comme peuvent le faire les séries de super-héros en général. Les Américains sont habitués à faire ça et depuis très très longtemps. Donc dans l'univers de la sitcom, on l'a beaucoup fait. On est finalement dans cette logique de on crée une deuxième série avec un personnage que les téléspectateurs ont connu. On va profiter du succès de l'une pour créer le succès de l'autre. Buffy et Angel, par exemple. Forcément, Angel est la série dérivée de Buffy. Donc finalement, c'est assez pratique de les reconnecter à l'occasion. Il y a eu aussi Le Caméléon et Profiler qui se sont associés à l'occasion. Du côté des Français, un crossover qui a fait date, c'est celui entre PJ et Avocat et Associés. Il y a même eu Camping Paradis avec Joséphine Ange Gardien. Donc en France, on l'a fait aussi.
Le spécialiste des séries Benoît Lagane, interrogé par Alexis Demeyer. La publicité des livres à la télévision, à son tour, le syndicat national des éditeurs se prononce contre le décret du 5 avril qui autorise cette expérimentation pendant 2 ans. Ce décret inquiète l'ensemble du secteur au motif qu'il favoriserait l'appauvrissement de la création littéraire. Enfin, vous l'avez entendu aujourd'hui, nous sommes à 100 jours des JO. Et bien, à partir d'aujourd'hui également, est en vente le pass Transport pour cette période des Jeux, un pass critiqué pour ses prix prohibitifs, mais disponible donc à partir d'aujourd'hui. Et vous, Christelle, vous resterez à Paris
pendant
les JO?
Ah oui, je serai même à l'antenne.
Vous voulez voir ça, malgré les embouteillages?
Ah oui, je suis ravie d'être là, pour
c'est
tout vous
dire. C'est à vous, Christelle Romière.
Merci. À suivre la météo.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles. Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Sébastien Léas, des averses du sud-ouest aux régions de l'est demain.
Oui, après avoir concerné une bonne partie nord aujourd'hui, l'instabilité va se décaler d'ici demain pour intéresser les régions entre les Pyrénées, la Lorraine, la Bourgogne, le Jura, l'Auvergne et les Alpes. Les averses seront généralement peu actives, hormis entre les Alpes du Sud et la Corse, où des orages pourront éclater. Ces averses seront neigeuses en montagne, on pourrait même avoir une couche de quelques centimètres en moyenne montagne, d'autant qu'en fin de nuit et en début de journée, la neige pourra apparaître à très basse altitude, voire en plaine sur le quart nord-est, par débordement. Quelques averses pourront atteindre les plages du Languedoc et du Roussillon ainsi que celles de la Côte d'Azur l'après-midi. En revanche, l'ouest de la Provence gardera de belles éclaircies tout au long de la journée avec encore du mistral. La tramontane sera aussi soutenue et puis la journée sera également ensoleillée entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et les frontières de la Belgique en passant par le bassin parisien. Le ciel va progressivement se dégager jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine et à la Lorraine après une matinée bien mitigée.
Ça c'est une bonne nouvelle pour la nouvelle un peu moins sympathique, c'est le retour des petites gelées.
Oui, la fraîcheur s'accentue encore un peu la nuit prochaine. Les températures pourront parfois descendre sous la barre du 0 degré, comme à Langres ou à Charleville-Mézières. Ces gelées seront faibles et localisées. Elles deviendront plus fréquentes durant la nuit de jeudi à vendredi. Et puis les températures maximales resteront aussi sous les valeurs de saison. Demain après-midi, il fera seulement 7 degrés à Saint-Étienne, 9 degrés à Annecy-Épinal, 10 degrés pour Mulhouse, 11 degrés à Dunkerque et Dijon. On attend 12 degrés à Nancy et au Havre, 13 degrés à Carcassonne, Pau et Avignon, 14 degrés pour Paris et pour Tours, 16 degrés à Mont-de-Marsan et à Vannes, et 17 degrés à Montpellier, Toulon et Ajaccio.
Merci Sébastien.